à bâton rompu.
À bâton rompu.
À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Benoît de Maupeou. Benoît, bonjour.
Bonjour Bruno.
Benoît de Maupeou, vous êtes un jeune retraité, vous avez fait toute votre carrière d'ingénieur, puisque vous aviez une formation d'ingénieur à Toulouse, dans différents... Alors, j'ai noté Matra au départ, puis EADS, puis Airbus, mais enfin, tout ça est la même continuité. Et donc, vous avez eu une vie d'ingénieur passionnante avec des postes de direction prestigieux. C'est déjà une belle carrière, mais vous avez fait beaucoup de choses parallèlement à ça, et c'est ce dont nous allons parler. Et évidemment, le fait d'être retraité de votre carrière d'ingénieur ne vous a pas empêché de continuer tout ce que vous faisiez en parallèle et même de le développer. Donc, on va revenir sur tout ça. Mais tout d'abord, pour que nos auditeurs vous connaissent mieux, je voudrais préciser que vous avez 8 enfants, ce qui est quand même pas banal, et 19 petits-enfants, ce qui, à l'âge de 66 ans, fait déjà une belle tribu. Avec votre épouse Valérie, vous avez créé une lignée formidable. Donc, comme je le disais, vous êtes un jeune retraité actif, d'abord parce que vous étiez très engagé, et je pense que beaucoup de Toulousains le savent, dans le scoutisme. Vous avez eu des responsabilités dans le mouvement scout, scout d'Europe, je crois.
Hein? Oui.
Ce qui nous a amené d'ailleurs à nous croiser, bien que moi, mes enfants étaient plutôt chez les SUF, mais on se voyait quand même de temps en temps. Vous avez été responsable départemental, régional, puis national. Donc, vous avez beaucoup donné de votre temps pour le scoutisme. Vous avez été administrateur de l'Arche aussi, ce qui est pas rien. Et puis, depuis l'été dernier, je crois, vous avez pris la présidence d'Espérance Banlieue, dont nous avons déjà parlé dans cette émission. Et donc, on va, si vous le voulez, commencer par ça. Pourquoi est-ce que vous prenez la présidence de cette association, qui, je le rappelle pour nos auditeurs, est une association complètement œcuménique, c'est-à-dire qui n'est pas du tout d'engagement religieux. Hein. Vous recevez tout le monde sans distinction et vous n'avez pas une volonté d'afficher une religion plus qu'une autre. Mais vous prenez des enfants de milieux très défavorisés, dans les banlieues difficiles, pour leur donner un projet éducatif qui correspond à ce que vous voulez faire. Donc expliquez-nous pourquoi vous êtes engagé là-dedans et qu'est-ce que vous voulez faire là-dedans ?
Voilà, donc effectivement, j'ai eu la chance de participer à l'aventure Espérance Banlieue Toulouse, dont Jean-Louis Bounine, le précédent président qui a fondé l'association, a parlé déjà dans cette émission. J'ai rejoint l'aventure dès le début, en 2016, et j'ai pris la succession de Jean-Louis il y a effectivement presque un an. Parce que c'est le lot de toutes les associations, il faut rafraîchir un peu et renouveler les équipes. Hein. Jean-Louis s'étant beaucoup dépensé dans cette tâche. Alors pourquoi ? Vous connaissez, il a décrit les trois piliers, qui sont les piliers académiques, éducatifs et intégratifs. Et c'est vrai que, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de Français, je n'accepte pas ce déterminisme social qui fait que des jeunes, parce qu'ils sortent de milieux moins favorisés que le mien, soient tracés, ont leur vie tracée, ne soient pas capables, à moins d'efforts énormes, d'acquérir ce capital culturel, cette connaissance de la France. Et c'est vraiment ce pilier-là qui m'a intéressé. Comment, surtout que chaque enfant est un trésor, on le voit tous les jours dans cette école. Et là, ça rejoint un peu le fil rouge de mes engagements. Hein. C'est la jeunesse, c'est l'enfance, que ce soit mes enfants, que ce soit les personnes handicapées de l'Arche, que ce soit les élèves de milieux plus défavorisés, ils ont des trésors d'imagination, de bonté, de gaieté extraordinaire, et il faut les aider à les mettre en valeur. Il faut aider leurs parents, parce qu'on ne fait pas ça sans leurs parents, il faut aider leurs parents à les mettre en valeur, et il faut les accompagner. Donc voilà, un petit peu, c'est tout ça qui m'a beaucoup plu, et effectivement... La première fondation, cette école à Montfermeil en région parisienne, était un bel exemple qu'on a eu envie de dédoubler à Toulouse.
Alors, il faut préciser que vous êtes en pleine croissance, puisque en quelques années, ça a été lancé, je crois, en 2017.
Hein, la première 2017, la première entrée, oui.
Première entrée. Et aujourd'hui, donc, 6 ans après, vous avez plus de 50 élèves. Quel est l'objectif ?
L'objectif, c'est d'avoir un primaire, on a une maternelle depuis cette année, et d'avoir des primaires complets. Quand on dit complet, c'est une classe par niveau, avec un effectif maximum de 15, comme l'a expliqué Jean-Louis, c'est un des priorités, alors des petits effectifs. Et une fois cette étape, on n'y est pas encore, quand cette étape sera remplie, pourquoi pas le collège ?
Oui. Ah, évidemment, jusqu'à la troisième.
Jusqu'à la troisième, en commençant par la sixième, évidemment, en tout cas, c'est déjà la demande des parents. C'est déjà la demande des parents qui veulent pouvoir continuer dans ce cadre-là. Alors, à nous, on les oriente. Il y a quand même des écoles qui font y compris des écoles primaires. Je discute souvent avec mes enfants qui ne comprennent pas mon choix ou le choix d'Espérance Banlieue, qui mettent leurs enfants dans le public ou dans le privé. Donc, il ne s'agit pas de dire là, c'est à droite, c'est bien, à gauche, c'est pas bien. Non, non. Il y a des richesses dans toutes les écoles et les parents nous questionnent beaucoup et nous demandent de les aider à s'orienter vers la sixième. Alors, bien sûr, quand on pourra, on le fera. On fera ce collège, mais on prendra notre temps. Ça pose d'autres questions, le collège. Hein. On a des exemples en France, d'écoles du réseau Espérance Banlieue, où c'est pas simple. C'est pas simple d'un point de vue pédagogique, programmatique, au point de vue du comportement.
Oui. Hein,
c'est évident. Donc,
c'est le moment de l'adolescence difficile. Hein, les classes de 5e, 4e, 3e sont des classes où les enfants sont souvent dans des logiques un peu de rupture, d'émancipation, donc difficile à gérer, surtout pour ces publics qui sont dans des banlieues où il y a souvent de la délinquance, de la drogue, des trafics divers et variés. Donc j'imagine que c'est un beau défi. Mais moi, je suis extrêmement séduit par ce projet parce que, effectivement, quand on s'intéresse à l'éducation, on se rend vite compte que la vraie injustice sociale, entre guillemets, c'est le capital culturel. C'est le fait que des enfants, et surtout des enfants de milieux défavorisés ou d'immigrés, etc., arrivent et ne partagent pas un socle de culture qui leur permettra de se débrouiller ensuite dans la vie pour avoir des métiers dans une culture française où quand même ça a de l'importance. Parfait. Donc c'est formidable que vous fassiez ça. Il y a un deuxième point qui me paraît très important aussi, que j'ai expérimenté moi, dans ma commune, c'est l'orientation. Très souvent, les jeunes sont complètement, et les parents avec, sont complètement démunis dans le maquis des formations qui sont proposées après le bac. Et donc là aussi, l'aide au choix est quelque chose de difficile. Et là aussi, il y a beaucoup d'injustices. C'est-à-dire, il y a les gens qui connaissent le système, qui savent où sont les bons leviers, et puis il y a ceux qui ont du mal à s'y repérer, même s'ils vont... dans les salons pour étudiants, etc. Mais il y a tellement, l'offre est tellement riche, tellement diversifiée que c'est très difficile de s'y retrouver. En tout cas, ça, c'est une autre question que vous ne traitez pas, mais cette question. Alors, je rappelle pour nos auditeurs que vous n'accueillez, ce n'est pas la diversité, c'est-à-dire que vous n'accueillez que des gens des milieux défavorisés.
Alors, je mettrai une petite nuance, parce que si on veut vraiment aider à l'intégration, il faut un peu de mixité sociale.
Oui.
Donc, on est bien la priorité, effectivement, c'est les personnes qui n'ont pas cet accès à la culture. Mais on s'interdit pas d'avoir, par exemple, on a cette année une maîtresse, une des enseignantes qui a mis son enfant en maternelle. Il faut pas. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a des parents. Les parents nous disent, Mais nous, on veut s'intégrer, mais on ne veut pas rester en vase
entre
clos.
Ouais.
Donc, par petite dose, de manière intelligente, il ne faut pas qu'on hésite à intégrer des enfants qui peuvent venir d'autres milieux. À partir du moment où ils adhèrent à la charte de l'école, ils ont bien compris l'intérêt.
Une certaine mixité sociale.
Oui, je pense que c'est important si on veut vraiment les aider à grandir dans toutes les dimensions.
Alors, deuxième caractéristique de votre école, c'est que vous n'êtes pas une école sous contrat. Donc, vous êtes tenu de respecter les programmes de l'éducation nationale, bien évidemment, et là-dessus, l'État est extrêmement vigilant, et je sais que vous êtes inspecté, vous avez déjà été inspecté, parce que l'État ne veut pas que, justement, il y ait une dérive et qu'on se mette à enseigner n'importe quoi, n'importe où, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Mais en revanche, sur les méthodes pédagogiques, vous êtes totalement libre d'appliquer, d'expérimenter ce que vous voulez. Donc, quel est votre projet, vous, de ce point de vue-là?
Tout à fait. Et alors, il y a une dimension qui est importante. Alors, Jean-Louis Bouny en a parlé pour la méthode de Singapour, pour les mathématiques. Mais la notion de jeu, apprendre par le jeu. Alors, moi, je suis un peu marqué par le scoutisme pour ça. Ouais. Mais apprendre par le jeu, que ça soit les sciences physiques, que ça soit le calcul, même le français, c'est très important. Donc, effectivement, on applique des méthodes qui sont à la fois anciennes, la méthode syllabique, et puis renouvelées comme Singapour. On fait un peu de Montessori. Je crois qu'il faut des méthodes qui laissent l'enfant le plus libre possible, créatif possible, avec un cadre, avec des structures. Donc, je crois que toutes ces méthodes ont fait ses preuves. On a des écoles plus anciennes que nous dans le réseau qui ont été avec des évaluations. Chaque année, on a des évaluations inter-écoles. On se compare avec les mêmes types d'évaluations faites dans l'éducation nationale et on voit qu'on tient tout à fait la route. Donc, non, on continue et on le fait avec confiance.
Alors, il y a aussi une caractéristique dont on n'avait pas parlé d'ailleurs avec Jean-Louis Bonny, mais c'est que tous vos élèves sont en uniforme. Or, il y a un débat qui a été relancé par Mme Macron d'ailleurs, qui a dit qu'elle était plutôt favorable à ça. Il y a eu une levée de boucliers dans un tas de cénacles politiques, notamment, en disant « mais non, c'est une régression, etc. » Donc, vous, quelle est votre approche là-dessus?
C'est très amusant, le rapport des Français et de nos gouvernants avec l'uniforme en classe. Je dis ça parce que, bon, comme vous, j'ai fait quelques voyages en Afrique, en Haïti, en Asie du Sud-Est, où toutes les écoles
sont en uniforme.
Alors, en France, il y a eu une espèce dans les années, je dirais, dans les années 70-80, on assimilait ça côté militaire, ça choquait, mais c'est en train de partir, c'est en train de disparaître, parce que la tyrannie des marques que subissent les enfants... nos enfants est terrible et donc c'est extrêmement pédagogique, au contraire. Alors il faut un uniforme qui soit saillant, qui soit utile, qui soit simple, qui soit joli. Il ne s'agit pas de dépenser une fortune ni de les mettre dans des habits qui sont passés de mode, mais là tout le monde est au même pied d'égalité.
C'est pas qu'une blouse chez vous?
Alors pour les petits c'est une blouse, pour les petits maternels. Oui. Ça suffit, mais en plus ça évite à la maman d'aller. Mais ça, toutes les maternelles pratiquement ont ça. Et puis après, les plus grands, ils ont un sweatshirt. Alors, un sweatshirt de couleurs différentes pour garçons et filles. Et puis, voilà, c'est tout. C'est très simple. Et vous savez, il y a de plus en plus d'écoles qui en sont en France. Je suis surpris, quand je me balade dans des grandes villes, à Paris en particulier, de voir que des enfants qui ont un petit uniforme, tout simple, avec le logo de l'école, un sweatshirt, quelquefois un pantalon, une jupe pour les filles, enfin tout ça à mon avis va revenir tranquillement. Et c'est pas étonnant d'entendre Madame Macron en parler, parce que elle le sait, elle a été professeure, elle sait bien que cette tyrannie des marques, pour reprendre un terme utilisé, ça peut être très néfaste. Le goût du paraître, c'est terrible.
Le goût du paraître, et puis ça crée aussi des identités locales, des petites communautés locales. Il y a ceux qui ont les chaussures ou le sweatshirt qu'il faut, ceux qui l'ont pas. Et donc ça crée des groupes, et on sait que c'est très important pour les jeunes de pouvoir s'identifier à des groupes. C'est une façon de se socialiser. Or là, justement... ça gomme toutes les différences et ça favorise une vraie mixité. Donc moi, je suis absolument de votre avis. Je trouve que c'est une très, très bonne idée de faire ça. Et bravo de l'expérimenter. Alors, vous nous avez un peu parlé de ça. On ne va pas trop s'apesantir sur Espérance Banlieue et cette école qui, je le rappelle, est dans le quartier du Zénith à Toulouse. Mais je voudrais qu'on parle avec vous, parce que vous avez 8 enfants, d'éducation. On est dans un siècle, dans une période qui remonte d'ailleurs sans doute aux années 70-80, où petit à petit la taille des familles s'est considérablement réduite, à tel point qu'aujourd'hui, le sentiment que j'ai, moi, dans mon vécu au quotidien, c'est que c'est très difficile d'avoir plus de 3 enfants. Les voitures ne sont pas faites pour, les appartements, c'est des 4 pièces qui font 100 mètres carrés dans le meilleur des cas, et donc on ne voit pas comment on peut loger 3 enfants plus un couple. Donc c'est vrai que notre société n'est plus calibrée pour des familles nombreuses. Or vous, vous êtes un contre-exemple, 8 enfants, vous habitez dans le centre de Toulouse, comment vous avez fait ?
Ah, bah écoutez, c'est un choix, effectivement, c'est un choix, c'est une chance. C'est un défi aussi. Alors, c'est un choix marqué un peu par notre culture familiale. C'est vrai que je parle aussi un peu au nom de Valérie, mon épouse. Moi, nous étions 4, Valérie, ils étaient 7. Donc, c'est vrai qu'à partir du moment où on a vécu une enfance extraordinaire avec des dizaines de cousins, avec des étés à la campagne, avec beaucoup d'activités, on est privilégié. Hein, on a été privilégié. Et à partir du moment où on a vécu ça, bah, on s'est dit pourquoi pas. Alors, après, c'est un choix. Parce qu'un salaire, 8 enfants, parce que Valérie, pendant très longtemps, effectivement, était...
8 enfants, ça occupe quelqu'un à temps plein, oui.
C'est un choix, mais c'est un choix très riche. C'est une chance. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui ne peuvent pas avoir de familles nombreuses pour des tas de raisons. Donc, c'est une chance. Et puis, c'est un défi permanent, c'est une aventure. Et notre grande joie, c'est de voir nos enfants, qui eux aussi, alors ils en ont 2, ou ils en ont 5, ou ils en ont 3, enfin peu importe. Mais c'est un lieu, la famille, et la famille nombreuse, élargie, avec toutes les différences qu'il peut y avoir, qui sont une grande richesse, c'est un lieu de partage, c'est un lieu de transmission, et nous, on se réjouit. Alors c'est vrai que c'est un investissement énorme, surtout peut-être plus encore pour mon épouse, mais on en recueille les fruits tous les jours. Donc c'est extraordinaire, et quand j'entends certains discours dire il faut réduire encore, je m'inquiète un petit peu. Quand je vois le taux de natalité français qui a longtemps été quand même dans les premiers d'Europe, qui est en train de baisser, je dis attention, il ne s'agit pas d'avoir tous des familles de 8 enfants, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est une richesse dont on ne faudrait pas oublier cette richesse-là. Et la France a un système qui a beaucoup aidé, ce système de famille nombreuse, il ne faut pas le négliger, il ne faut pas que ça soit pour les allocations familiales, les droits à la retraite, il faut le continuer, l'amplifier. D'ailleurs, je trouve que les grand-mères qui ont éduqué des enfants, ils ont droit aussi à certaines facilités à la retraite. Il y aurait certainement du travail à faire dans ce domaine-là, mais je ne vais pas parler au nom des associations de familiales. Enfin, voilà. Donc, c'est une grande richesse. C'est un choix, et on en
est vrai que la France a souvent été citée en exemple du point de vue de sa natalité, et on l'expliquait en partie par tout l'environnement des familles, c'est-à-dire qu'en France on a des crèches qui sont quand même, il y a un réseau de crèches formidable, donc il est possible dès 3 mois de mettre ses enfants à la crèche, etc. Dans des pays comme l'Allemagne par exemple, le système de crèche n'existe pas, et donc on disait souvent que la natalité en Allemagne était bien inférieure à celle qu'on avait en France, parce qu'il y avait toutes ces facilités dans le modèle français. Or, aujourd'hui, ces facilités existent encore, mais la natalité, malheureusement, est en train de baisser. Et de plus en plus, on voit des jeunes qui nous disent, à nous, adultes, générations au-dessus, on ne veut pas d'enfants parce que le monde qu'on leur laissera n'est pas un monde vivable, etc. Enfin, il y a une espèce de pessimisme.
C'est vrai.
Est-ce que vous avez remarqué ça ?
Oui, on a remarqué ça dans les amis de nos enfants. Mais ce qu'ils oublient, c'est que chaque enfant, chaque personne est une potentialité, est une force créatrice pour l'avenir. Le progrès de notre société, et en particulier la lutte aussi contre tous les phénomènes climatiques, ça passera aussi par l'imagination, la discipline certes, mais aussi par l'imagination, la créativité, par la technologie. On a besoin de personnes pour activer tous ces... Il est hors de question de faire une société d'ermites qui va reculer, se recueillir dans sa forêt. Je suis tout à fait pour améliorer au quotidien nos démarches et nos actions dans le domaine de l'énergie en particulier, ou du gaspillage, etc., évidemment.
Mais je souscris tout à fait à cette idée. Je trouve que dans ces raisonnements qui nous disent on va vers un monde qui ne sera pas accueillant pour les jeunes, donc il ne faut pas avoir d'enfants, ça veut dire que cette jeunesse ne fait plus confiance à la génération qui va venir derrière pour trouver des solutions aux problèmes. En fait, chaque génération a eu ses problèmes à résoudre, donc faisons confiance à l'homme. Et je trouve que notre religion en particulier a ce message qu'aimait à rappeler d'ailleurs Jean-Paul II, qui est « faites confiance à l'homme ». Et je trouve qu'il y a une perte de confiance qui va un peu avec la déchristianisation aussi de notre société, où les gens se regardent et ne sont plus capables de se projeter dans l'avenir et avec les générations à venir. Donc, merci. Moi-même, je suis issu d'une famille de 5 enfants. Je sais que c'est une grande richesse. Je sais que ce n'est pas toujours facile au quotidien et que notre mode de vie avec des doubles carrières, c'est compliqué à gérer. Donc, c'est pas toujours. Il faut avoir une épouse comme la vôtre pour dire j'en fais mon job à temps plein, quoi.
Et puis on a bien conscience que nous sommes des privilégiés dans beaucoup de domaines, mais justement c'est parce que nous sommes privilégiés par notre éducation, par nos enfants, par notre environnement qu'il faut en faire profiter les autres. Nous avons choisi pour la messe de mariage la parabole des talents. Et pour nous tout est dit dans la parabole des talents, c'est qui est un peu un guide de notre vie. Et on a reçu, il faut donner. Il y a tellement de choses à donner et il y a tellement de gens qui donnent qu'on ne connaît pas.
Alors, ça m'amène à... Avec votre épouse Valérie, vous avez, au fond, cherché à transmettre un certain nombre de valeurs et je trouve que cette idée de la transmission, qui est une idée qui vous habite, vous l'avez dit, c'est un peu le fil rouge de vos engagements. Quelles sont les valeurs cardinales que vous avez cherché à transmettre, vous ? Votre couple,
c'est l'amour. Alors, c'est un lieu commun de le dire, mais c'est important. C'est-à-dire, nos enfants, vous pouvez imaginer que dans le parcours de nos enfants, il y a eu des parcours très différents. Et il faut toujours, et c'est pas facile. Et je reconnais que souvent Valérie était meilleure que moi pour ça. Il faut les aimer tels qu'ils sont, quoi qu'il arrive. Ça c'est fondamental. Après c'est l'écoute. Là aussi, je ne suis pas toujours un modèle. Savoir les écouter pour mieux les aimer. C'est le partage.
Pardon.
Et le pardon, bien sûr, vous avez raison. Vous avez raison de le dire. J'ai des souvenirs très précis. Et le pardon, ce n'est pas uniquement l'enfant qui demande pardon à ses parents parce qu'il a fait une bêtise. C'est aussi les parents qui savent dire pardon. Quand ils ont été trop loin, quand ça aussi, ça nous est arrivé de le faire, c'est très important. Merci de me le rappeler.
Non, mais bon, c'est quand même les piliers de notre foi. Et je crois que les familles nombreuses ont aussi ce mérite, c'est que la fratrie, à l'intérieur de la fratrie, il y a souvent des disputes, ce qui est bien naturel.
Bien sûr, bien sûr.
Et le fait que les enfants apprennent à se pardonner, c'est le propre des familles nombreuses. Un enfant unique, c'est compliqué, parce qu'il ne peut demander pardon qu'à ses parents. Bon, les parents peuvent lui dire pardon d'avoir fait ceci ou cela, mais ce n'est pas la même chose que d'être avec des frères et sœurs et à un certain moment de dire « bon, ben, je t'ai choqué ou je t'ai blessé, mais je fais cette démarche active ». Je crois que ça, c'est un mérite majeur dans les familles nombreuses. Je ne sais pas si c'est votre expérience personnelle aussi.
Oui, mais... c'est vrai. Chaque famille est une belle communauté, même avec un enfant. Mais c'est vrai que plusieurs enfants, c'est plus naturel. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des conflits en permanence. Ouais. Mais il y a des amortisseurs. Il y a beaucoup d'amortisseurs dans une famille. Une famille sans conflit, ce n'est pas possible. Mais il y a des amortisseurs, il y a des accompagnements, il y a des binômes qui se forment, il y a des relais qui se trouvent. Un enfant peut parler à ses parents au nom de l'autre enfant. Enfin, c'est extraordinaire. C'est une petite communauté. Enfin, ouais. C'est une petite communauté d'église comme une petite communauté humaine. Et on y vit des choses extraordinaires qui font grandir chacun, y compris les parents.
Est-ce que vous retrouvez ça dans Espérance Banlieue ? Parce qu'au fond, c'est ça que vous essayez aussi de...
Alors oui, c'est très intéressant parce que surtout les enseignants, mais nous aussi, on forme une petite famille. On veut le faire, surtout, elle dure quelques années. C'est pas une famille qui va se renfermer sur elle-même, mais on voit des parents qui sont attachés à l'école, qui viennent nous donner des coups de main, qui viennent faire des gâteaux pour le goûter, qui viennent, on a, je crois que Jean-Louis l'a évoqué, un café des parents, où le directeur rencontre les parents, les fait parler. Oui, c'est cet esprit de famille, où il y a une notion d'entraide. On apprend aux enfants, c'est dans le côté éducatif, un petit peu comme le scoutisme, mais il y a des équipes avec des grands et des petits, et ben, les uns vont faire un peu de nettoyage de la table après le déjeuner, vont balayer
pourtant,
un petit peu.
Pourtant, d'un point de vue culturel, j'imagine qu'il y a plusieurs... vous avez des Africains subsahariens, des Nord-Africains, des musulmans, des agnostiques, des chrétiens, enfin, il y a tout ce mélange.
Oui, oui, tout à fait, oui.
Et ça fonctionne.
Ça fonctionne, parce que c'est une petite communauté, on n'est pas étouffé par le nombre... Et on arrive à créer le lien. C'est remarquable. Moi, je suis émerveillé de voir le contact personnel que le directeur et les parents et les enseignants ont avec les parents. C'est normal pour un enseignant. Ils vous diront, tout le monde le fait. Mais là, il y a une attention.
C'est normal, mais c'est rare.
Mais je pense. Là, tous les matins, le directeur est à l'entrée. C'est normal. Et tous les soirs, tous les enseignants sont là. Donc, pour dire au revoir, pour parler, pour faire un petit débrief, la technologie aide, le SMS avec les parents. Alors, il faut le faire de manière juste, il faut le faire de manière équilibrée. Il y a des parents plus timides que d'autres. Donc, il y a tout cet équilibre, mais il y a une notion de famille, oui. Il y a une notion de famille, d'ailleurs. Alors, je cite une anecdote, mais un papa musulman qui disait au directeur, mais finalement, les familles nombreuses, c'est chez les musulmans et chez les catholiques. Bon, alors là, j'aurais pu lui dire pas tout à fait vrai.
Pas tout à fait vrai, mais pas amusant, complètement faux non plus.
Cette question de famille est très importante pour eux. Très, ouais, très important aussi.
C'est vrai. Bien, ben écoutez, Benoît de Maupeou, merci de votre témoignage et merci des actions que vous avez pour l'éducation. C'est une façon de transmettre des valeurs qui nous sont chères. Merci à vous.
Merci, Benoît.